Donc, on a appelé ça Fourier, le nouveau monde amoureux et mai 68. Hein, c'est pas explicitement mai 68, c'est quand même autour du nouveau monde amoureux. Hein, et il y a une bonne raison quand même. Hein. Et je vais reprendre en partie les éléments d'un article que je viens de publier dans Clio, Histoire, Femme et Société, dans un numéro spécial Utopie sexuelle. Hein, donc j'ai éventuellement quelques exemplaires pour ceux qui veulent. Donc parmi les écrits qui n'ont jamais été publiés, on le sait, du vivant de Fourier, figurent 5 cahiers écrits entre 1817 et 1819, et intitulé, ces cahiers, Le Nouveau Monde Amoureux, synthèse finale. Bon, on sait que dès 1808, ça nous a été rappelé ce matin, le traité des quatre mouvements comprenait des développements assez précis sur la place des femmes dans l'histoire de l'humanité, sur la critique de l'amour monogame de la civilisation, ainsi que des aperçus sur ce qu'il appelait à l'époque l'ordre composé. Notamment, c'est-à-dire ce qu'il appellera plus tard l'harmonie, hein, notamment sur l'organisation amoureuse de la jeunesse. Mais tout ça totalisait une trentaine de pages sur 250 du traité des quatre mouvements de 1808. Hein. Mais les cahiers du Nouveau Monde Amoureux vont beaucoup plus loin et auraient pu conduire, s'ils avaient été publiés, à une véritable réorientation de l'école sociétaire. L'amour sous sa forme la plus matérielle, libéré du carcan de la monogamie, y était destiné par Fourier à devenir le principal ciment social de l'harmonie. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'après la mort de Fourier en 1837, donc on sait que ces manuscrits ont été soigneusement conservés, d'abord dans des archives privées liées aux membres de l'école, puis recueillis par des archives publiques. Et seul au XIXe siècle, une trentaine de pages sur les 500 du Nouveau Monde Amoureux ont été portées à la connaissance du public par les disciples dans diverses publications. Donc très peu de choses. Et ça n'est finalement donc qu'en 1967, un siècle et demi plus tard, que Le Nouveau Monde Amoureux a été publié in extenso, ce qui justifie le choix de 68, hein, pour la première fois, avec une longue préface de Simone Debout, qui devient en gros la seconde inventeuse du texte. Alors, je dis inventeuse puisque déjà Fourier était l'inventeur, hein, se définit comme l'inventeur. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps? Bon, on n'accuse plus aujourd'hui, comme autrefois, les disciples, aussi exclusivement. Hein, bon, c'est vrai qu'ils étaient choqués par ce qu'ils avaient pu lire des propositions de Fourier sur l'amour et les questions matrimoniales. Ils étaient parfaitement convaincus de leur caractère relativement secondaire à l'image de la cosmogonie. Dans la préface des éditeurs à l'édition de 1841 du traité des quatre mouvements, il est dit, je cite, l'inconvenance de l'application actuelle de ces innovations, l'inopportunité et l'inutilité pratique de toute discussion actuelle sur ces matières amoureuses, hein, ont conduit l'école de Fourier à réserver ces questions aux générations qui seront aptes à les discuter et qui auront intérêt à les résoudre. Bon, je ferme la citation. Bon, mais on sait bien que la perte d'importance de la question de l'amour ou de l'égalité des sexes dans les textes de la maturité de Fourier est largement due à l'auteur lui-même, hein, on l'a rappelé ce matin. À partir des années 20, Fourier est de plus en plus obsédé par l'idée de rendre la théorie sociétaire attrayante et réalisable et écarter ce qui peut effrayer le public. Donc, mais je dirais que dès les cahiers du Nouveau Monde Amoureux, les cahiers originaux, Fourier déclarait qu'il ne concevait pas ses propositions sur l'amour comme immédiatement vérifiables dans la pratique. Et il l'indique à diverses reprises dans le texte. texte, hein, je le noterai en passant. Hein. Donc c'est pas un changement tardif. Même au moment où il écrivait le texte, il pensait que ça n'était pas un élément qui allait pouvoir faire l'objet d'innovations immédiates. Alors, l'exposé est donc consacré au texte du Nouveau Monde Amoureux, dont je vais essayer de donner une présentation structurée et, je l'espère, non anachronique. En second lieu, donc, m'attacher à décrire la réception contemporaine enthousiaste du texte, à la suite de sa publication. Et en troisième lieu, je vais m'efforcer de relire ce texte de Fourier comme une œuvre de sciences sociales dans la ligne de l'interprétation qu'en donne mon voisin, Pierre Merclet, dans sa thèse. La différence étant que je ne mettrai pas en exergue l'expérimentalisme social de Fourier, comme Pierre Merclet le fait, qui se réfère plutôt à d'autres œuvres de Fourier, ou son utilisation du raisonnement analogique, mais que je tenterai de reconstruire une manière fouriériste de se confronter au monde social, qui est pour moi à la fois modélisatrice et critique, et qui est bien représentée, à mon sens, par le Nouveau Monde Amoureux. Bon, alors, le Nouveau Monde Amoureux, première chose, c'est un manuscrit inachevé. Il faut jamais oublier ça. Il n'a jamais été préparé pour la publication et il garde la trace d'une composition et d'une recomposition continuelle. Vous me direz que dans Fourier, bon, ce sont des choses qui sont banales, mais enfin, celui-là peut-être plus que d'autres. Second petit point, dans mon effort pour éviter l'anachronisme, vous remarquerez que malgré les thèmes sur lesquels je travaille, je vais essayer d'éviter, dans la présentation de l'œuvre, tous les termes que Fourier n'aurait pas employés, hein, ou n'aurait pas pu employer, même si, on le verra, les commentateurs les ont beaucoup employés eux-mêmes, hein, justement. Bon, par exemple, je ne parlerai jamais de sexualité, ni d'homosexualité, ni d'érotisme, ni de fantasme, ni de pulsion, ni de liberté sexuelle, ni d'amour physique. L'adjectif sexuel n'apparaît pas non plus dans Fourier, et désir est assez rare. Hein, bon. En revanche, il emploie les termes donc, que j'emploierai pour ces mêmes raisons, de répression, de système répressif, de liberté amoureuse, d'amour matériel, de passion, de plaisir, de jouissance. Jouissance est un terme très souvent employé. L'adjectif sensuel, dérivé donc des sens, hein, bon, est aussi très courant. Hein, bon. Je ne reviens pas sur la division par Fourier de l'histoire de l'humanité en périodes, se distinguant non par le type d'activité économique, mais par le statut de la femme et la manière dont l'amour est réglé. Hein. On en a beaucoup parlé ce matin. C'est un élément qui apparaît dès le traité des quatre mouvements et qui est beaucoup repris et développé avec des exemples nouveaux dans le Nouveau Monde Amoureux. Je passe à un second petit point, le fait que dans la mise en cause de la civilisation et des civilisés, hein, c'est-à-dire de la période actuelle, la période contemporaine, la critique impitoyable du mariage indissoluble joue un rôle central qui a frappé les premiers lecteurs, qu'ils soient opposés ou favorables. Mais sa critique porte aussi, par exemple, sur le discrédit qui s'attache à l'amour sentimental, sur l'humiliation des vieillards en matière amoureuse, c'est un point qui revient très souvent, et sur l'asservissement et l'avilissement des femmes par le mariage. Donc pour Fourier, il existe donc deux formes d'amour, l'amour sentimental ou céladonique. Il emploie assez souvent amour céladonique, et l'amour matériel ou sensuel. Et il dit quelquefois tout simplement le matériel, hein, pour dire l'amour matériel ou l'amour sensuel. Une des plus grandes tromperies de la civilisation, dit-il, est de faire croire que le sentiment a la première place, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que aspirer à un amour dégagé de prétention à la jouissance est, je cite, « réputé niaiserie en civilisation ». Un exemple qu'il cite, très intéressant, est celui de, je cite, l'impuissance momentanée qui frappe ceux qui, par un sot amour-propre, veulent passer aux voies de fait, alors que l'esprit et le cœur sont encore tout entiers à la passion sentimentale. Et le problème, or, cette déconvenue, expression fourriériste, que Stendhal intitule « Fiasco » dans « De l'amour », publié à la même époque, alors cette déconvenue, alors qu'elle devrait normalement être accueillie avec indulgence, n'excite que la raillerie. Et c'est bien la preuve, d'après Fourier, que le sentiment pur n'a pas d'emploi bien défini en civilisation et n'est pas pris au sérieux. Les absurdités du mariage civilisé sont innombrables, hein, c'est une des choses qui occupent le plus de place dans le nouveau monde amoureux. Il est particulièrement cruel d'obliger deux personnes à vivre et à rester ensemble, quels que soient leurs sentiments l'un pour l'autre, et l'universalité de l'adultère prouve bien l'hypocrisie des principes de la civilisation. Le mariage, en réalité, bride notre penchant universel à la polygamie. Pour les femmes, les conséquences du mariage sont redoutables, dit Fourier. Je cite, « La jeune fille n'est-elle pas une marchandise exposée en vente à qui veut en négocier l'acquisition et la propriété exclusive ?» Fourier est un des premiers à rapprocher le mariage de la prostitution et assimile la défloration d'une jeune fille traînée à l'autel par sa famille à, je cite, « un viol manifeste ». Une fois mariées, les femmes doivent accepter la condition de ménagère, or peu d'entre elles s'intéresseraient aux soins du ménage si le choix leur était donné. Enfin, la servitude conjugale conduit à un avilissement moral en encourageant la servilité chez les femmes à l'égard de leur mari et en les conduisant à faire preuve de fausseté, d'inconstance, de frivolité et de dissimulation. Donc ce sont des attitudes de résistance. Renversant les valeurs de la monogamie commune, Fourier ridiculise ce qu'il appelle l'amour égoïste du couple. Je cite, « Deux amants civilisés ne sont sublimes que pour eux-mêmes, risibles et insipides pour les autres, francs égoïstes aux yeux de tout le monde, qui voient à bon droit dans leur liaison une caricature, une ligue de pur intérêt, dont eux seuls recueillent le fruit. » Le système des ménages isolés, d'après Fourier, réduit à leur minimum les liens sociaux que l'amour pourrait multiplier à l'infini. Donc Fourier est infiniment plus radical que ceux qui, à son époque, adressent des critiques à la civilisation et au mariage. Dans le livre de Sénancour, De l'amour, paru en 1806, que Fourier n'a pas lu, bon, mais c'est pas une raison. Sénancour, auteur pré-romantique, on trouve des tonalités qui évoquent la critique fourriériste, mais avec une absence générale de perspective vers une autre société. Bon, on sait que les Saint-Simoniens critiquaient la non-prise en compte sociale des qualités féminines et faisaient d'un couple nouveau et complémentaire. Il y avait un homme et une femme complémentaires, l'unité élémentaire et le modèle de l'organisation sociale tout entière. Stendhal, donc, qui écrit De l'amour, enfin qui publie De l'amour à l'époque où Fourier écrivait Le Nouveau Monde Amoureux, hein, c'est pour ça que je m'y référais de temps en temps, est également assez modéré. Il recommande de donner la liberté aux jeunes filles, suggère l'institution du divorce, mais c'est à peu près tout. Donc, le radicalisme de la critique fourriériste ne s'appuie pas que sur l'observation des mœurs amoureuses de la civilisation, mais surtout sur l'examen minutieux des possibilités offertes par un modèle d'organisation amoureuse qui aurait rompu avec la monogamie. Donc, j'en viens là. La théorie sociale de Fourier, les passions humaines jouent un rôle politique majeur. Je fais un bref rappel sur ce point. La plupart des maux sociaux résultent des entraves qui ont été apportées au développement des passions, désignées sous le terme d'engorgement des passions. Engorgement qui, je rappelle, est un terme employé en jardinage, en hydraulique et en médecine. À l'époque, donc on voit comment Fourier audacieusement élargit le sens. Donc, dit-il, toute passion engorgée produit sa contrepartie qui est aussi malfaisante que la passion naturelle aurait été bienfaisante. Pour Fourier, l'incompatibilité de la civilisation avec les passions humaines, en particulier avec l'amour, souligne l'urgence de chercher, je cite, un ordre social compatible avec le développement des passions, capable d'innover en jouissance amoureuse. Fourier ne croit pas en effet qu'un développement harmonieux des passions puisse se produire spontanément, ce n'est pas un spontanéiste, sans une forme d'organisation sociale qui agence les compatibilités. L'idéal est que les passions conduisent à la constitution de sectes affinitaires ou séries passionnées formées d'individus qui partagent les mêmes penchants. Si l'amour a vocation à détenir la primauté parmi les passions, c'est que la passion la plus propre à former des liens entre les humains. Fourier propose donc que le culte de l'amour devienne religion unitaire, hein, tout ça dans le nouveau monde amoureux. Pour dépasser le mariage monogame et la ridiculisation de l'amour en civilisation, il faut faire de ce dernier un véritable objet de politique. L'amour n'est pas qu'effusion individuelle et hédonisme égoïste. L'amour a une telle importance sociale que rien de ce qu'il concerne ne peut être laissé au hasard. Dans ses écrits sur l'amour, il donne un développement à la théorie des passions en direction de l'infiniment petit et en référence à la passion amoureuse. C'est un autre élément important. Il déclare que nous avons tous des manies. Je cite, « Les manies sont des diminutifs de passion, des effets du besoin qu'a l'esprit humain de se créer des stimulants. Les manies se développent très activement en amour, où chacun cherche un bonheur idéal dans quelques habitudes, souvent très indifférentes en elles-mêmes. » Fin de citation. Dans la mesure où les manies sont raillées en civilisation, elles sont difficiles à connaître et souvent engorgées, justement. Comme dans le célèbre cas de la princesse Trogonoff, qui, je cite, « étant saphienne sans le savoir, persécutait une jeune esclave avec une fureur d'autant plus grande que l'engorgement venait du préjugé. » Inversement, en harmonie, les manies seront l'objet d'un intérêt politique en raison de leur puissante propriété sociale. Je cite, « Au lieu de se moquer comme en civilisation des manies de chacun, on s'attachera à les encourager et à les associer par groupe. » Fin de citation. Donc, les co-maniens, donc ceux qui partagent la même manie, seront invités à se réunir, à voyager et à se rencontrer, notamment lorsque leur manie est peu fréquente. Loin d'isoler, les manies rapprochent. En harmonie, chacun donne à l'amour, je cite, une portion fixe de sa journée, et l'amour y devient l'affaire principale. Fin de citation. Le principe de base est celui de la liberté amoureuse. Personne n'est contraint à rien, aucun comportement amoureux n'est interdit. Il y aura toujours des monogames, dont le comportement ne sera évidemment guère prisé, ainsi que des amis du commerce qui vendent l'amour au lieu d'agir par charité philanthropique et qui seront donc méprisés pour cela, à l'égal des monogames. Toutes les manies ou penchants ont droit de citer, de même que l'amour ambigu et l'ensemble des manies rares. L'objectif premier de la politique amoureuse, expression employée par Fourier, hein, j'essaye de n'employer aucune expression qui n'est pas employée par Fourier. Hein. L'objectif premier de cette politique est l'établissement d'un minimum amoureux, permettant à chacun et à chacune, au moyen des corporations religieuses affectées au minimum amoureux, de, je cite, satisfaire en pleine décence ses besoins sensuels. Fin de citation. Cependant, pour qu'un service de charité amoureuse puisse être ainsi organisé, il faut que les demandeurs ne soient pas trop nombreux. En harmonie, dit Fourier, l'amélioration de la santé et de l'alimentation provoquera l'amélioration de la vigueur des corps. Relativement peu nombreux, ceux qui bénéficieront du minimum amoureux sont d'une part des individus accidentellement disgraciés de la nature, des personnes délaissées et des vieillards. Mais cet état correspondra à un âge bien plus avancé qu'aujourd'hui. Hein, donc, les corporations volontaires, les corporations amoureuses volontaires de fakirs et de fakiresses, de bayadères et de bayadères, de bacchantes et bacchants, chacune avec sa spécialité, seront chargées de la bienfaisance amoureuse. Donc on voit que l'accès garanti à l'amour matériel donne corps à l'idée d'une société dont nul n'est rejeté. Un second objectif de la politique amoureuse, c'est l'éducation et l'organisation amoureuse de la jeunesse. Tout doit être fait, selon Fourier, pour préserver les enfants jusqu'à 15 ans, pile, de la connaissance du mystère amoureux. Et c'est une des tares de la civilisation que de voir des garçons et des filles de la campagne qui n'ignorent plus rien à 10 ans. On mettra cependant les enfants en contact avec la corporation amoureuse la plus brillante, d'après Fourier, celle des vestales et vestelles, qui sont les vierges, femmes et hommes. Cette corporation jouit de nombreux privilèges, suscite l'enthousiasme général et son appartenance strictement volontaire à la corporation autorise à jouir de liaisons céladoniques avec des troubadours. Ceux qui s'estiment incapables d'y appartenir ou qui cessent d'en faire partie entrent sans drame dans la seconde corporation qui est celle des damoiselles et damoiseaux, qui sont des jeunes filles et jeunes gens de moins de 20 ans, qui pratiquent l'amour sensuel, l'amour matériel, mais sont tenus d'observer la fidélité avec un poursuivant ou une poursuivante attitrée. Donc on voit bien que le modèle amoureux n'est pas celui de l'abstinence, ni celui de la multiplicité des relations pour la jeunesse. Hein. L'objectif est bien plutôt d'organiser un apprentissage réglé, mais sans contrainte, de l'amour sentimental, de l'amour sensuel et du code amoureux. Le troisième objectif de la politique amoureuse, qui doit être atteint uniquement par l'incitation et l'exemple, hein, jamais la contrainte, c'est d'assurer la multiplication des liens amoureux. Il concerne seulement la population adulte, comme je viens de le dire, et c'est en favorisant, en contrôlant et en récompensant les comportements de sainteté et de noblesse amoureuse, fondés sur le désir de servir son prochain en amour, et en les proposant comme modèle, qu'on amènera chacun à désirer et à valoriser le renouvellement altruiste des relations, à ne pas se limiter à une relation monogame, socialement stérile. L'organisation de la vie amoureuse incombe à des institutions spécialisées, les cours d'amour, chargées de faire respecter le code amoureux, c'est-à-dire les règles de fonctionnement des corporations amoureuses, ainsi que les principes d'attribution des honneurs et des titres en matière amoureuse. Ce sont des autorités morales plus que judiciaires et qui existent de manière assez décentralisée à tous les niveaux de l'organisation sociale, de la phalange jusqu'à l'armée industrielle. Donc elles sont chargées du contrôle des épreuves de sainteté, de l'organisation quotidienne des plaisirs, de la mise en place des orgies, sur lesquelles je vais revenir, de l'accueil des hordes ou des corporations en voyage. Elles emploient une bureaucratie importante, je ne vais pas détailler ça en revanche, sous l'autorité des pontifes, qui sont des femmes âgées pleines d'expérience. Il y a peu de postes qui sont attribués à un sexe ou à un autre, mais on pense quand même que pour les cours d'amour, il vaut mieux des femmes. Dans le modèle social de Fourier, on voit donc que la liberté amoureuse repose sur une organisation sociale solide. La science sociale de Fourier est modélisatrice et classificatrice. Hein, bon, j'annonce déjà un autre thème. Elle s'efforce de ne mettre aucun détail. Dans la mesure où, je cite, « l'absence du mariage donnera lieu à une foule d'innovations amoureuses en harmonie », fin de citation, l'auteur envisage les possibilités logiques qu'offrirait la fin de ce carcan, dans un contexte d'égalité entre hommes et femmes, de prise en compte des passions. Donc, il décrit deux nouvelles catégories de relations amoureuses qui vont apparaître. L'amour sentimental occupe une grande place, conjointement avec des formes de relations multiples très raffinées. Cinq ordres d'amour sont décrits. celui qu'il appelle l'ordre simple, soit en amour sentimental, soit en amour matériel, l'ordre composé, qui associe le matériel et le sentimental, sans qu'il concerne nécessairement les mêmes personnes d'ailleurs, l'ordre polygame, qui pratique l'ordre composé dans plusieurs unions, l'amour omnigame, qui comprend l'orgie composée, et l'ordre ambigu, qui comprend ce qu'il appelle des genres aujourd'hui tombés en désuétude. Hein, je vais pas y revenir, je ne vais pas développer ce point. Bon, j'insiste plutôt sur les orgies harmoniennes. Donc, les orgies harmoniennes, ce sont des formes valorisées à l'instar de festins gastronomiques, dont on sait qu'ils ont une grande importance pour Fourier, mais là non plus je ne vais pas développer. Les orgies en harmonie se distinguent nettement des orgies chez les civilisés, qu'il qualifie de sales orgies des civilisés, parce qu'elles sont clandestines, beaucoup trop fondées sur l'amour matériel. Les orgies harmoniennes seront organisées avec soin afin de permettre un maximum de rapprochement bien assorti. Ainsi, on peut prendre un exemple, la visite d'une horde d'aventuriers dans un phalanstère, qui peut être l'occasion d'une brillante orgie qui dure plusieurs jours, donc préparée par la cour d'amour. Alors, donc, diverses étapes doivent normalement être suivies. Il y a donc la réception, les confessions, on va voir à quoi ça sert, un repas sans étiquette, une, je cite, salve de la simple nature, qui est une courte bacchanale qui est simplement destinée à établir les sympathies dans l'ordre matériel entre les participants, puis une rencontre sous l'auspice de matrones qui établissent les assortiments sympathiques, j'espère que vous me suivez, hein, c'est-à-dire entre les participants, suivi des, je cite, des orgies de musée, dans laquelle chacun expose à nu ce qu'il a de plus remarquable. Hein, donc, sorte de défilé donc, où on expose. Avant les orgies de lendemain, qui s'appuient sur toutes les inspections et renseignements préalables, donc c'est quelque chose d'assez préparé. Puis les orgies d'adieu, qui permettent d'avoir ceux ou celles que l'on n'a pas eus. Hein, bon. Donc, la présence constante des ministres de la cour, hein, de la cour d'amour pendant l'orgie permet d'éviter que certains soient délaissés, puisque c'est quand même une des préoccupations majeures de Fourier, et de faciliter l'abordage. Terme fourieriste. L'orgie chez Fourier se débarque. Vous voyez, mais c'est l'abordage. L'orgie chez Fourier se démarque fortement, radicalement de l'orgie chez Sade, pour ceux qui connaissent, qui, au contraire, est très hiérarchisée socialement, et dans laquelle le pouvoir social définit strictement les rôles sexuels actifs et passifs joués par chacun. Même quand un valet joue un rôle très actif, c'est parce que sa maîtresse lui a ordonné de jouer un rôle très actif, hein, dans l'orgie sadienne. Hein. Bon, la description de la polygamie met en évidence la diversité des types de personnalités amoureuses ou des situations de la vie amoureuse. La plupart des individus sont digynes, trigynes ou polygynes, mais même en harmonie, existent des personnalités monogames, peu valorisées cependant, et non contraintes par les règles sociales à une fidélité absolue. Je crois qu'un des thèmes intéressants de Fourier, c'est que même si l'harmonie valorise au plus haut point la multiplicité et le renouvellement des liens, Fourier estime que si les besoins sensuels sont satisfaits, le sentiment pourra jouir d'un lustre éclatant, totalement inédit en civilisation. Ainsi s'explique la valorisation extrême de ce qu'il appelle, je cite, « l'amour pivotal ». Je cite la définition, je désigne sous ce nom une affection qui se maintient à travers les orages d'inconstance. Pour un polygyne, je cite de nouveau, c'est une amante de charme permanent et pour qui il ressent de l'amour, même au plus fort des passions qui le rendent insouciant pour ses favorites de l'alternat précédent. Fin de citation. Donc la valeur exceptionnelle de ce type d'amour, qu'il conçoit comme une fidélité transcendante, tient au fond d'inconstance où il prend racine, hein, qui lui donne une valeur particulière. L'organisation politique et l'expérience des amours en harmonie font émerger un tout autre langage des émotions et des affects. L'amour égoïste, donc je l'ai dit, perd tout lustre au profit de la philanthropie amoureuse. Celle-ci consiste en un vif désir de satisfaire matériellement ceux qu'ils souhaitent sans en attendre de profit direct. Ainsi, les philanthropes pratiquent spontanément la bienfaisance amoureuse auprès des personnes plus recherchées. La philanthropie est une qualité attendue, évidemment, chez ceux qui visent la sainteté amoureuse, mais la capacité à entretenir des relations sentimentales est également prise en compte. Et enfin, même ceux qui n'atteignent pas les grades et les titres les plus élevés en amour, donc la noblesse et la sainteté, sont invités à être systématiquement ouverts aux relations avec les inconnus, avec les voyageurs, avec les personnes d'autres classes d'âge. Le progrès social, par ailleurs, a des effets, dit Fourier, sur la jalousie. Pour lui, je cite, « cette passion est susceptible de grandes modifications quand les circonstances créent des motifs d'accommodement, comme il arrivera en harmonie ». Fin de citation. De fait, les déplaisirs et peines d'amour ne durent guère en harmonie, car les consolations sont rapides. Il y a même des corporations amoureuses destinées à consoler les délaissés. L'expérience de la multiplication des relations conduit à une recomposition générale du système des qualités morales, alors qu'en civilisation, l'hypocrite monogamie officielle pousse chacun à oublier les relations amoureuses dès qu'elles prennent fin, ce que Fourier intitule « l'oubli odieux des civilisés », cette attitude est considérée comme méprisable en harmonie, où les individus gardent un souvenir précis et, je cite, « des traces d'amitié de toutes les histoires amoureuses vécues ». Au plan matériel, il s'ensuit que chacun peut espérer de ses amantes ou amants significatifs lorsqu'ils disparaissent, des legs, bon, Fourier est assez concret, des legs à proportion de la durée et de la force des passions vécues. Fourier décrit également les profondes amitiés qui peuvent naître entre hommes qui ont aimé une même femme. Donc, en harmonie, les amours produisent de l'amitié. L'égalité des droits entre hommes et femmes, affirmée en tout domaine, structure toute la représentation que Fourier donne d'un autre modèle amoureux. Il tient à donner, on l'a entendu, aux corporations amoureuses des titres féminins et masculins, qui désexualisent leurs fonctions. Les vestales sont flanquées des vestelles, les fakirs des fakiresses. L'affirmation du principe n'exclut pas un certain pragmatisme empirique comme pour les petites hordes et les petites bandes que citait Jonathan Bisher ce matin. La corporation des Vestales et Vestelles, par exemple, comportera plus de filles que de garçons, dit-il. Et à l'autre extrême dans l'échelle des âges, les pontifes, j'ai déjà dit, responsables des cours d'amour, seront généralement de vieilles femmes, pleines d'expérience. Mais malgré tout, Fourier décrit de manière parallèle les aspirations et les destins amoureux des hommes et des femmes, qui sont toujours alternativement poursuivants et poursuivantes, poursuivis et poursuivis sans que le sexe fasse rien à faire. D'ailleurs, les vieilles femmes, autant que les vieillards, pourront bénéficier du service amoureux, et en fonction des responsabilités qu'elles assumeront dans les cours d'amour, il pressent qu'elles sauront sans nul doute impressionner et charmer de jeunes hommes. Fourier estime par ailleurs le saphisme plus répandu que la pédérastie. Nulle part dans le Nouveau Monde Amoureux n'apparaît l'idée selon laquelle les femmes seraient plus intéressées à former des couples ou plus sentimentales que les hommes, comme l'affirmaient les Saint-Simoniens. Ni même l'idée d'une coloration particulière de leur lien à l'amour sensuel, en fonction de leur expérience de la maternité. En ce sens, on peut dire que le modèle de Fourier dissocie radicalement, une fois pour toutes, la reproduction et l'expérience amoureuse. dans la mesure où les liens entre générations et l'éducation sont envisagés au plan de la société et non des individus, l'expérience amoureuse n'est productrice ni de parenté, ni de parentalité. Dans le cadre du ménage progressif, les tâches de cuisine et d'entretien sont mises en commun et les femmes peuvent développer hors du foyer les aptitudes qui correspondent à leur goût. L'ensemble de ces éléments permet à l'auteur de maintenir une égalité radicale entre hommes et femmes sans envisager la question du lien entre eux en termes de complémentarité. Pour Fourier, il n'y a pas de spécificité essentielle, sociale, émotionnelle ou sensuelle, des femmes ou des hommes. Les différences entre hommes et femmes n'ont aucune importance et n'établissent aucune hiérarchie entre eux. Lire les écrits de Fourier sur l'amour, j'en passe à la partie de la réception, c'est d'abord chercher à quel genre les rattacher. La réponse est d'autant plus incertaine que le manuscrit principal est inachevé et qu'il n'a commencé à être lu qu'un siècle et demi après avoir été écrit. Donc ce n'est pas la même problématique que celle qu'on a vue ce matin. Or, un manuscrit inachevé, par définition, se prête particulièrement aux tentatives de le recomposer, en choisissant par exemple un autre ordre des parties, ou de le compléter. Par exemple, Daniel Guérin supplée les mots manquants, puisqu'il manque beaucoup de mots dans les carnets. Troisième manière, de le paraphraser. Et de nombreux textes sur Fourier consistent en des fragments du texte de Fourier entremêlés de fragments poétiques écrit par le paraphraseur dans le style de Fourier, ce qui fait qu'on a particulièrement de mal à les lire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. En tout cas, le long hivernage du manuscrit lui a permis de ne pas connaître le cycle que décrit Pierre Merclet à propos de la tradition utopique, invocation, rejet, oubli. Dans la conjoncture de 68 en France, la réception du nouveau monde amoureux est d'emblée inscrite dans une quatrième phase, qui est celle de la réhabilitation. Le texte est reçu avec enthousiasme et immédiatement soumis à des lectures qui soulignent son actualité politique dans une perspective parfois, même souvent, antimarxiste et son appartenance à l'avant-garde littéraire à travers des interprétations, on va le voir, souvent intéressées, partielles ou anachroniques. Bon, j'indiquerai seulement les principales directions empruntées par les lectures avec quelques exemples pour donner l'idée, parce que c'est beaucoup trop foisonnant, autrement. Donc, l'aspect littéraire, premièrement. Les écrits du fondateur de l'école sociétaire ont traditionnellement intéressé les écrivains et le champ de la critique littéraire, à la suite peut-être de l'enthousiasme de Stendhal, relayé au XXe siècle par celui du fondateur du surréalisme, André Breton, qui lui donne une place de marque dans l'anthologie de l'humour noir, qui écrit une ode à Charles Fourier et le considère dans une interview de 1947 comme un des trois grands émancipateurs du désir avec Sade et Freud. Alors même qu'il n'a jamais eu accès au nouveau monde amoureux, puisqu'il est mort avant. L'auteur est donc situé du côté du rêve, de l'imaginaire, de l'humour. Et dans la lignée de cette première inscription de Fourier dans la littérature, la critique littéraire d'avant-garde, après 68, s'empare de Fourier, sur qui on écrit, dans Tel quel, ou dans Topic, revue freudienne, qui lui consacre un numéro spécial. Pierre Klossowski, Roland Barthes abordent de Fourier, qu'ils mettent en rapport avec Sade, rapprochement qui est très caractéristique de cette conjoncture historico-littéraire avant-gardiste, mais qui va être oubliée, qui est oubliée par la majeure partie des fourierologues par la suite. À cette époque, on les rapproche systématiquement tous les deux. Barthes traite en particulier de la question de l'écriture chez Fourier. Je cite, « L'invention de Fourier est un fait d'écriture, un déploiement du signifiant. Il déclare « Le fondement du sens chez Fourier, ce n'est pas la substitution, l'équivalence, c'est la série proportionnelle. Fourier serait ainsi le représentant, je cite, d'une sémantique baroque, c'est-à-dire ouverte à la prolifération du signifiant. » Et, dit-il, critiquer Fourier, c'est critiquer le signifiant. Bon, c'est un peu radical, mais... Voilà, donc... on voit que l'inclusion de Fourier dans la littérature, ou ce type d'inclusion, tout comme d'ailleurs la tradition de rattacher l'utopie aux études littéraires, ont un effet dépolitisant. Alors, à l'inverse, il existe un courant qui, on va dire, surpolitise l'utopie, dans le sillage de Karl Mannheim et d'Ernst Bloch, qui la valorise comme courant politique en rupture avec la réalité présente, courant qui se renforce dans l'après 68, et bon, dont un exemple que je peux citer parmi d'autres, c'est le philosophe de Lecce, Arrigo Colombo, responsable d'un centre de recherche sur l'utopie, auteur d'un ouvrage sur Fourier, traduit en 2004 en français, qui décrit l'utopie comme un mouvement millénariste de l'humanité vers plus de justice et qui situe Fourier en son sein comme celui qui aurait introduit l'amour et la sexualité dans cette quête transhistorique. Dans un autre ordre d'idées, dans les réflexions sur les origines des mouvements pour l'émancipation des femmes, les propositions de Fourier sur l'égalité entre les sexes ont été considérées comme un moment de rupture. La philosophe Geneviève Fraisse, par exemple, dans ses travaux sur la différence des sexes, insiste sur la radicalité des propositions de Fourier, pas tellement sur l'égalité entre hommes et femmes, mais sur le fait qu'il fait disparaître le ménage isolé, petite société qui a servi les femmes, et assoit l'égalité entre hommes et femmes sur une autonomie individuelle absolue, c'est-à-dire qui fait disparaître l'échelon intermédiaire du ménage. Le courant dominant dans la lecture des écrits sur l'amour de Fourier l'inscrit dans autre chose, l'histoire de la libération sexuelle. Ce dernier terme désigne non seulement une actualité, une conjoncture historique de transformation, qui commence dans les années 60 et 70, mais également une représentation de la nature de ces transformations, interprétée de façon aujourd'hui assez contestée, comme une levée radicale des contraintes, des normes et des tabous antérieurs. Fourier, donc, qui écrivait sous la Restauration, évoquait une société de liberté amoureuse, est pris comme précurseur, prophète, et même éventuellement juge des transformations de la fin du XXe siècle. Je prends trois exemples. Simone Debout, dans la préface de 1967, une préface très longue, près de 110 pages. Elle en fera ensuite une autre qui ne fera plus que 30 pages, qui est très nettement différente. On pourrait les comparer terme à terme, mais c'est plus de 20 ans après. Bon, alors, dans sa préface, elle loue le caractère visionnaire des théories de Fourier sur les manies et sur l'engorgement des passions, tout en s'étonnant de ses théories sur l'inceste, qui la troublent beaucoup. Bon, mais j'ai pas développé ça aujourd'hui, mais je peux y revenir éventuellement. S'inscrivant dans le prolongement d'André Breton, elle établit des rapprochements avec Sade et fait de Fourier un précurseur de Freud. Bon. Daniel Guérin, autre exemple typique, militant anarchiste homosexuel, auteur dès 1954 d'un des premiers comptes rendus en français des enquêtes de Kinsey, c'est un des introducteurs de Kinsey en français, publie en 1975 une sélection organisée de textes de Fourier vers la liberté en amour, donc très réorganisée, très recomposée. Dans sa préface, il situe l'auteur comme un défricheur de la révolution sexuelle, si audacieux, dit-il, que Freud, Reich et Kinsey paraissent timides à côté de lui. Il s'intéresse particulièrement au développement épars de Fourier sur, je cite, l'amour unisexuel. À l'inverse, je donne un dernier exemple de ce point, Michel Brix, professeur de littérature à l'Université de Liège, adopte un point de vue d'opposant conservateur à la libération sexuelle, puisque ce terme libération sexuelle sert à la fois aux pros et aux anti. Selon lui, notre époque serait asservie à l'idéal fouriériste, idéal lamentable, hein, selon lui, précurseur de toutes les évolutions négatives de la famille, en raison de la critique de la monogamie, et les évolutions négatives de la sexualité par asservissement au désir. Hein, donc on voit Fourier aussi comme un précurseur. Donc on voit que l'actualité de Fourier est prouvée systématiquement par sa mise en rapport avec des situations sociales ou des auteurs postérieurs qui, dans bien des cas, ne le connaissaient pas. Fourier est devenu un Nostradamus de la libération sexuelle. Donc je finis sur... La lecture que je voudrais suggérer, un peu à la manière de Pierre Merclé, essayer de situer et de relire Fourier dans le processus foisonnant de création d'une science sociale au XIXe siècle. Cette volonté d'introduire la science à l'intérieur de l'étude de l'homme en société. Bon, il faut d'abord prendre au sérieux le terme par lequel Fourier se désignait, celui d'inventeur. Il se disait l'inventeur, il ne se référait pas à une discipline, mais de temps en temps quand même à une science sociale, inventeur d'une science sociale, dans laquelle est présente l'histoire de l'humanité, l'analyse et la critique de la situation sociale présente, et la préparation des essais méthodiques pour la modifier, hein, voilà, les composantes de cette science sociale. Donc, on voit bien que science sociale, socialisme, désir de réforme sociale, pendant toute la première moitié du XIXe siècle, sont à peu près synonymes. Mais, comme l'indique Pierre Merclé, donc, les écrits de Fourier sur l'organisation du travail se réfère en outre, en permanence, à l'expérimentation et aux essais qui permettront de prouver que ces propositions ne sont pas des chimères. Ça n'est pas le cas dans le domaine de l'amour, et c'est pour ça qu'il faut dire quelque chose d'un petit peu différent pour le nouveau monde amoureux. Fourier donc considère que les innovations seront lentes, et son ouvrage est, je cite, comparable à ceux qu'on réserve aux médecins et aux confesseurs et qui doivent traiter des matières interdites à d'autres ouvrages. En citation, pour ces raisons, il indique qu'il omet certains développements qui ne pourraient être compris à son époque. Hein, bon, il signale qu'il faut omettre maintenant un développement, que c'est très dommage, mais que c'est comme ça. Bon, alors, le nouveau monde amoureux est centré sur à deux moments, on peut dire, est centré d'une part sur une observation des comportements amoureux du temps, et d'autre part sur une construction logique, celle d'un autre modèle social visant à la maximisation des liens amoureux, dans lequel le mariage monogame a disparu et où règne une égalité absolue entre les sexes. Les deux moments sont distincts, mais ils sont imbriqués dialectiquement. L'observation sert à dégager des principes secrets, comme par exemple celui de l'aspiration générale à la polygamie, qui vont être utilisés dans la construction du nouveau modèle. Le modèle lui-même sert à fournir un cadre de lecture qui permet d'évaluer les limitations des mœurs civilisées, des mœurs amoureuses civilisées. Par exemple, l'existence possible d'une philanthropie amoureuse fait apparaître l'aspect extrêmement limité de l'égoïsme conjugal en civilisation. Hein, donc ça donne un point de vue critique. Dans ses observations empiriques, Fourier est un classificateur et un constructeur de typologies et de tableaux. Hein, vous voyez venir un peu le sociologue démographe. Ainsi, la typologie du cocuage, amorcée modestement dans le traité des quatre mouvements, où il n'y a que trois catégories, prend une grande ampleur avec l'augmentation de l'expérience de Fourier. Hein, bon, je ne développe pas ce point, mais bon, le traité du cocuage est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Par ailleurs, pour établir sa théorie des manies, il a écouté, je cite, « les femmes qui ont eu beaucoup d'amants et les hommes qui ont eu beaucoup de maîtresses ». Fin de citation. Enfin, pour établir, je cite, « la durée moyenne d'un amour pivotal chez les différents caractères en harmonie, il s'appuie sur les récits de, je cite, polygames qui lui sont connus et qui lui ont compté leurs amours, ce qui lui permet de construire un indice hein, de durée d'un amour pivotal. Bon. Le modèle d'un monde fondé sur le développement systématique des liens amoureux est une construction intellectuelle dont les implications pratiques sont calculées sans laisser aucun détail dans l'ombre. Le but est d'exciter le raisonnement autant que l'enthousiasme. C'est expression fourriériste, hein, c'est une citation. Hein, encore. Les conséquences d'un petit nombre de principes de base sont développées, voire calculées avec précision. Le modèle théorique de la société amoureuse comparé au fonctionnement de l'amour et du mariage en civilisation fait apparaître, par exemple, à quel point comportement et émotion individuelles changent radicalement de sens et de valeur lorsque l'organisation sociale se modifie. Il s'agit d'une déduction à prétention scientifique plutôt que du volontarisme d'un utopiste. Une discipline contemporaine comme l'anthropologie des émotions se retrouverait parfaitement dans ce mode de raisonnement, hein, par exemple sur le déclin de la jalousie dans un autre mode d'organisation sociale. Donc en conclusion, je dirais que la limite principale de la lecture libertaire 68 tarde courante du nouveau monde amoureux, c'est la contradiction insoluble entre apparemment le principe de la liberté amoureuse et le caractère extrêmement organisé du modèle de société décrit. Hein, bon, aporie qui n'a pas bien été vue. Et elle a été vue, si, mais par les conservateurs. C'est-à-dire que cette contradiction, les conservateurs et la réaction anti-utopique en tire argument pour accuser des auteurs comme Fourier, de manière évidemment anachronique, de totalitarisme. Hein, c'est ce genre de renversement qu'on connaît bien. Mais donc, si en matière amoureuse on veut bien arrêter de penser Fourier comme un prophète, un visionnaire ou un dangereux gourou, on perçoit bien le caractère systématique d'une pensée fondée sur l'observation et la modélisation des comportements sociaux, dont les comportements amoureux font intégralement partie. Et c'est ça une des audaces, hein, d'inclure les comportements amoureux dans les comportements sociaux. Fourier est un observateur, un classificateur, un modélisateur qui tient à ce que le tableau soit complet. Le radicalisme du réformateur social, qui n'a jamais cessé de poser le principe d'une égalité absolue entre hommes et femmes, est aussi un radicalisme scientifique. Il faut des perspectives et des alternatives radicales pour dévoiler les mécanismes des sociétés. L'utopie du nouveau monde amoureux, s'il en est une, c'est la conviction qu'on peut penser une société qui fonctionnerait sans mariage, seulement à partir de l'organisation de liens amoureux temporaires. Fourier, l'inventeur, bâtit donc la science sociale sur la radicalité, et redonner sa place à Fourier dans le mouvement de création de la science sociale, voire s'en emparer aujourd'hui, ce serait, selon moi, retrouver l'impulsion d'une science sociale qui se construit à partir de la radicalité, chose qui s'est un peu perdue.
Comment tu veux qu'on procède? Tu brûles d'envie de dire tout de suite ce que
tu... C'est-à-dire, je pense que toi, tu vas plus insister sur le co-aspect, peut-être...
Il y en a aussi. On peut écouter des questions. Michel y répond, j'enchaîne.
Et je pense qu'au moins sur la partie nouvel ordre amoureux et le modèle, finalement, que propose à faire, ou questionnement... des précisions.
Ben, on peut,
comme tu ne vas pas l'aborder, peut-être.
Non, on peut prendre. En partie, il m'a piqué Michel Brix, mais.
Je suis désolé. Non, je t'en ai laissé.
D'accord, oui, j'en garde un peu. Mais on peut tout à fait avoir un premier moment de discussion là-dessus. D'autant plus que moi, tu as fait l'effort qui m'a beaucoup intéressé de restituer Fourier sans le traduire. J'ai trouvé intéressant à observer. Enfin, c'est vraiment. Ouais, je pense que ça suscite peut-être des questions. Jonathan.